Merci Nicole pour cette première partie. Première question, pourquoi les républicains ont-ils à ce point peur de Trump? Est-ce qu'on a peur d'émeutes?
Je dois dire que ça, à mes yeux, ça reste quand même un peu mystérieux. J'ai évoqué évidemment la question des élections en Géorgie, le caractère central de la majorité au Sénat pour les républicains, le fait que Donald Trump a les moyens d'enflammer, de mobiliser un électorat, donc en Géorgie et au-delà, la peur de se couper de cet électorat. Parce que les républicains n'en ont pas de rechange, et que non seulement c'est avec cet électorat-là qu'ils doivent faire, qu'ils doivent bâtir leur avenir, mais que visiblement c'est un électorat qui s'est enthousiasmé pour Donald Trump. Quand même la question principale. Au-delà de ça, il est tout à fait réel que Donald Trump a transformé le parti, justement à cause de son emprise sur l'électorat. Que le parti républicain, qui était libre-échangiste et à cheval sur les équilibres budgétaires, est devenu un pays protectionniste, anti-immigration, et qui laisse filer les déficits sans aucune limite, et que c'est réellement devenu le parti de Trump, avec des divisions, puisqu'il y a des républicains qui ne se reconnaissent pas dans le parti de Trump, qui voudraient revenir à un parti républicain à l'ancienne, au point où on peut se demander si dans quelques temps, il n'y aura pas un tiers parti pour essayer de capter ce qui fut autrefois l'âme du parti républicain. Mais je dois dire qu'au-delà de ça, il y a une peur individuelle, réelle, de Donald Trump, de sa capacité à détruire les gens, à les humilier sur le plan, en parlant de leur physique, de leur intellect, de leur bêtise, etc., dans les réseaux sociaux. Voilà, il harcèle vraiment les infidèles, entre guillemets, dans les réseaux sociaux. Donc il y a une peur individuelle de voir sa carrière ou sa réputation détruite en se livrant à un acte de courage, par exemple. Pendant 4 ans, j'ai vu ce parti se transformer en parti de Trump. Et au fond, on a affaire à des gens, pas tous, il y a quelques exceptions, mais encore, on a les noms, je veux dire, ça ne fait pas une foule. Au fond, tous ces gens-là se sont beaucoup humiliés face à Trump. Ils ont encaissé des choses dont ils ont peut-être oublié qu'ils n'auraient jamais dû les encaisser. Et c'est peut-être aussi un peu comme des joueurs de poker qui ont beaucoup misé, beaucoup misé, beaucoup misé, et qui ont du mal à se dire, ah ben non, finalement, on n'aurait pas dû. Et il faut partir, il faut prendre ce qui nous reste et quitter la table de jeu. Donc je crois qu'il y a évidemment la question électorale, la question psychologique, la question de la peur de Trump, mais également peut-être, oui, cet aspect psychologique joue aussi.
Deuxième question concerne le Parti démocrate et ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti démocrate. Quel est son poids à venir dans la nouvelle administration? Enfin, en Israël, en tout cas, on caricature cette partie, disons, de la frange gauchiste du Parti démocrate comme étant anti-israélienne. On a même interdit, le gouvernement actuel avait interdit l'entrée d'Israël à trois représentantes du Parti démocrate élu il y a quelques mois en Israël, parce qu'elle a pris des positions pour certaines de soutien au BDS, en tout cas de soutien à la cause palestinienne. Donc quel est vraiment leur poids?
Alors, dans les premières nominations que l'on vient d'avoir, ils sont absents pour l'instant. Là, visiblement, Joe Biden choisit vraiment des gens d'expérience et des centristes qui sont en fait autour de lui ou dans l'administration Obama, un petit peu des anciens des administrations démocrates précédentes. Maintenant, on a 4 à 5 noms de l'équipe future et je sais que la gauche du Parti démocrate fait un peu le siège de l'équipe Biden pour demander des nominations importantes au sein du cabinet. On peut imaginer, par exemple, peut-être que quelqu'un comme Elizabeth Warren, qui a joué un rôle important déjà dans l'administration Obama et qui est une spécialiste des questions de protection des consommateurs dans les banques, une spécialiste des faillites d'entreprises et de la manière de les gérer, etc., peut-être aura-t-elle un poste dans cette administration Biden? Est-ce qu'il y aura un geste envers l'aile gauche? On n'imagine pas une seconde Bernie Sanders au cabinet de Biden, mais enfin, après tout, qu'en sais-je? Je suis plus inquiète de leur rôle à la Chambre des représentants, parce que la majorité démocrate, elle est serrée. et que donc il va falloir négocier avec cette aile gauche, qui certes n'est pas chargée de tous les péchés, mais qui a quand même quelques orientations que moi je trouve inquiétantes. Et là, évidemment, je pense à Israël, parce que j'ai eu la chance de passer pas mal de temps dans les universités américaines. Ce n'est pas caricatural de dire qu'il y a une montée d'un certain antisémitisme dans pas mal d'universités américaines. Une hostilité à la politique d'Israël qui tombe vite dans autre chose, dans un refus de la reconnaissance des impératifs de la sécurité d'Israël. Voilà, sur la question posée de l'existence même d'Israël. Donc je trouve que ça a un poids, et autant je pense qu'il est très important, malheureusement ça ne se fait guère, mais que les mouvements antiracistes, etc., qui existent en Europe, cessent de transférer directement la situation américaine à la France, par exemple. C'est absurde. Il y a des discriminations en France, bien sûr, mais l'histoire coloniale, l'histoire de l'immigration en France n'a rien à voir avec l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation. Évidemment, les couleurs de peau peuvent en donner l'illusion, mais non, ce n'est pas du tout la même histoire, et les problèmes se posent de manière très, très différente. Et une espèce d'internationalisation du mouvement antiraciste américain qui n'augure pas très bien de l'avenir des relations entre la gauche du Parti démocrate et Israël. Je le dis comme je le pense, c'est peut-être un peu simple comme point de vue, mais quand je vois l'incompréhension de la gauche américaine sur les questions de laïcité en France, sur les questions de terrorisme, sur les réactions après les attentats, et il y a un lien avec la vision que l'on a d'Israël dans tout cela, je crois que la préoccupation, elle est vraiment légitime. Mais bon, l'équipe Biden, à mon avis, et Biden lui-même, évidemment, est au-dessus de tout soupçon là-dessus.
Voilà, et dernière question relative au futur Sénat. Alors, effectivement, certains ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait qu'en Géorgie où il y aurait un second tour. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, en cas de victoire républicaine de ces élections en Géorgie, qu'il puisse y avoir des sénateurs républicains qui puissent voter des motions avec les démocrates?
Oui, tout à fait. Alors, cette question de la Géorgie, elle vient du fait que chaque État, donc 50 États, organise les règles de l'élection. Que ce soit même la présidentielle, non pas évidemment sur qui gagne et qui perd, mais comment on fait, où on vote et comment on compte, etc. Et c'est la même chose pour les sénatoriales. Et là, cette année, il y avait un tiers des sénateurs dont le siège était en jeu, ce qui est le cas tous les deux ans. Eh bien, la Géorgie a un règlement particulier. C'est pas celui qui obtient le plus de voix qui gagne, ce qui est le cas dans les autres États. C'est celui qui a la majorité, c'est-à-dire 50% plus une voix. Et quand il y a plusieurs candidats, en Géorgie, ils étaient au moins trois pour ces deux postes, eh bien, personne n'a eu la majorité absolue. Donc, dans ces cas-là, on fait une nouvelle élection entre les deux premiers pour qu'il y en ait un des deux qui ait la majorité absolue. Donc, voilà pour la règle de Géorgie. Et voilà pourquoi ça se produit au mois de janvier et non pas, par exemple, dans la deuxième semaine du mois de novembre, qui était en France, on aurait considéré que c'était une possibilité, mais non, ce sera au mois de janvier. Donc, il y a ces deux sièges qui sont en balance dans un État qui a donné pour la présidentielle la majorité à Joe Biden, mais quand même, c'est un État qui vote républicain depuis longtemps. La majorité de Biden, elle est nette, mais elle n'est pas gigantesque. Donc, ces deux sièges, ils vont être très, très disputés, en sachant que les républicains vont y mettre tous les moyens, à la fois sur le plan financier et politique. Et ils sont très préoccupés de l'attitude de Donald Trump. Soutiendra-t-il ou pas, et comment, les deux candidats républicains? Donc, c'est de ça dont dépendra la majorité au Sénat. Ensuite, La tradition voudrait que, effectivement, quelques sénateurs républicains puissent se joindre aux démocrates quand ils trouvent qu'une motion, un budget, une confirmation de juge est une bonne chose. Je rappellerai juste, pour exemple, qu'en 1997, je crois, quand la juge Ruth Bader Ginsburg a été confirmée par le Sénat à la Cour suprême, C'était une femme qui était très connue et dont on connaissait également les convictions politiques. C'était une femme de gauche avec une longue carrière de juriste où elle avait défendu notamment beaucoup les droits des femmes, etc. Donc il n'y avait pas de mystère sur ses positions. Elle a été confirmée par 96 sénateurs sur 100 parce que c'était une femme tout simplement très compétente. Ce n'est pas des choses que l'on n'a jamais revues depuis. La dernière juge à la Cour suprême, elle a été confirmée par 51 voix, point, avec deux défections républicaines et pas plus, et zéro démocrate. Le président, enfin le chef en tout cas du groupe des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui est un homme de 78 ans, est d'une dureté incroyable et il a joué un rôle absolument destructeur, mais ravageur, sur la capacité du Congrès de gouverner avec une petite marge de compromis. Quand Barack Obama a été élu en 2008, il a dit que son objectif premier, c'était que Barack Obama ne puisse faire qu'un seul mandat. Donc il a tout bloqué, tout. Et là, la confirmation de la juge pour satisfaire à Donald Trump et satisfaire une partie de l'électorat républicain, à quelques jours de l'élection, c'est complètement anathème par rapport à tout le fonctionnement de la démocratie américaine. Donc ça augure vraiment pas très bien. Et la lâcheté actuelle de tant d'élus républicains qui ne veulent pas juste reconnaître que Biden a gagné l'élection, ça n'augure pas très bien de la capacité de compromis. La seule lueur d'espoir, c'est que Mitch McConnell et Joe Biden se connaissent depuis qu'ils ont 30 ans, ils n'ont pas des mauvais rapports personnels. D'ailleurs, Mitch McConnell était peut-être le seul républicain qui a assisté aux funérailles du fils de Biden en 2015. Que Biden le connaît par cœur, qu'il connaît tous ses élus du Sénat par cœur, et que là, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire, mais avec beaucoup de difficultés quand même.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites judiciaires à l'encontre de Trump sur différentes affaires qui pourraient ressurgir après son départ ?
Il y en aura de toute façon. La seule question, c'est jusqu'à quel point. Tout ce qui relève du fédéral, notamment des affaires de corruption, de profit au service de la présidence, son comportement vis-à-vis de la Russie ou autre, il semble que l'équipe Biden aura à cœur de plutôt calmer le jeu et de ne pas vouloir que tout le mandat soit dévoré par Donald Trump faisant les gros titres tous les jours. Par contre, il y a des affaires comme les affaires de fraude bancaire et de fraude fiscale à New York qui ne disparaîtront pas parce que c'est du local, c'est New York, c'est pas du fédéral, ça ne dépend que des procureurs de New York qui sont vraiment très très enfoncés dans ces affaires et donc il y aura forcément des poursuites judiciaires. L'ampleur, par contre, on ne peut pas le savoir aujourd'hui.